Alors donc, la fois dernière, j'ai voulu commencer à parler de la liturgie, puis pour pouvoir dire un petit peu la définition de la liturgie. Ce n'est pas une affaire facile, hein, on ne se pose pas la question depuis très longtemps. J'ai d'abord essayé de montrer ce que n'était pas la liturgie, hein, c'est-à-dire, je vais le redire tout à l'heure, et puis au final j'ai fini par le texte du Concile qui est comme une définition de la liturgie, mais qu'il faut développer, qu'il faut que j'explique maintenant. Donc je relis ce passage du Concile qui dit « La liturgie est considérée comme l'exercice de la fonction sacerdotale de Jésus-Christ ». Donc ça c'est déjà l'essentiel. Et ensuite, « Exercice dans lequel la sanctification de l'homme est réalisée d'une manière propre à chacun d'eux et dans lequel le culte public intégral est exercé par le corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire par le chef et par ses membres. » Alors, le pape Pie XII, quelques années auparavant, dans une encyclique, aura dit « La liturgie n'est pas autre chose que l'exercice de la fonction sacerdotale de Jésus-Christ. » Je ne sais pas ce que ça évoque chez vous. Ça peut être un petit peu obscur et un petit peu abstrait. Ce qu'il faut voir, c'est que Jésus nous a montré, nous a révélé la Trinité, le mystère de la Trinité. C'est pas un peu fort, non? J'ai l'impression que ça me résonne dans les oreilles. Non? Ouais, ben je veux bien. Donc, la liturgie n'est pas autre chose que la fonction sacerdotale du Christ. Ceci nous a été révélé par le Christ lui-même dans le mystère de son incarnation, quand Dieu, le Verbe s'est fait chair, quand Dieu est venu parmi nous en Jésus-Christ, et surtout, il se manifeste dans sa mort et sa résurrection. C'est le mystère de Pâques. Et le mystère de Pâques est le mystère central de la foi chrétienne. On va le vivre bientôt. On le vit tous les dimanches, et on le vit particulièrement une fois par an, au moment justement de la fête de Pâques. C'est le mystère central, et la liturgie ne va faire que rendre présent le mystère de Pâques dans la vie des chrétiens. Dans le mystère de Pâques, Jésus s'offre au Père, offre sa vie, et par le fait même nous sauve de notre mort, et par sa résurrection nous donne la vie éternelle. Eh bien, ce mystère-là de la mort et de la résurrection du Christ qui nous sauve, qui nous sanctifie, on appelle ça aussi la rédemption, hein, Dieu nous donne la rédemption, et bien ce mystère-là va être communiqué à nous qui vivons 2000 ans plus tard par le mystère de la liturgie. Parce que la liturgie rend présent, mais pas rend présent dans le sens où on ferait une mémoire de ce temps passé, il y a bien longtemps, on se souvient, ah oui, c'était le bon temps. Quand Jésus est venu, si on y était, ça aurait été super. Espérons qu'aujourd'hui encore, Dieu va nous donner sa grâce comme à l'époque. C'est pas du tout ça. Et c'est cela qui est très fort dans la liturgie, c'est que on est rendu présent de la façon la plus forte qui soit. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout désavantagé en aucune manière. Et on peut dire donc que c'est le Christ qui, dans la liturgie, agit. C'est lui qui donne sa vie, c'est lui qui ressuscite, c'est le Christ qui agit dans la liturgie, c'est l'auteur de la liturgie, c'est lui que l'on voit agir au sein de la liturgie. Alors, ça a des conséquences très importantes, par exemple, dans le fait que l'Église, dans sa liturgie, souhaite à tout prix être fidèle au Christ. Être fidèle au commandement du Christ, à ce que le Christ a vécu, sa mort et sa résurrection, et au commandement, puisque nous savons que juste avant la mort et la résurrection, Jésus a demandé, a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Hein ». Donc tout ça, c'est le même mystère, et c'est pour ça que l'Eucharistie est centrale, parce que dans l'Eucharistie, c'est Jésus qui agit, c'est Jésus qui est en action, et il nous donne de vivre, nous aussi, aujourd'hui, pour nous aujourd'hui, sa mort et sa résurrection. Et donc de recevoir toute la grâce qui va avec. En plus, dans cette action que Jésus fait, il a fait durant sa vie terrestre, toute sa vie, et surtout au moment de sa mort et de sa résurrection, eh bien, dans cette action, se manifeste l'attitude de Jésus vis-à-vis du Père. Et ça aussi, c'est une dimension très importante de la liturgie, c'est que Jésus est dans un don total de lui-même au Père et aussi aux hommes. Mais il est dans un don total de lui-même au Père, dans un échange amoureux avec le Père, il donne sa vie, le Père donne son amour, il donne sa vie au Père, c'est le mystère de l'Esprit-Saint, hein, le dynamisme de l'Esprit-Saint. C'est pour ça que la liturgie, c'est une affaire trinitaire. Dans la liturgie, vous remarquerez que l'on parle énormément au Père. C'est au Père qu'on s'adresse. Quelquefois au Christ, quelquefois à l'Esprit-Saint, mais c'est d'abord au Père, par Jésus-Christ, dans l'Esprit-Saint. Alors, le moment le plus clair dans la messe, c'est au moment, à la finale, de la prière eucharistique. Par lui, avec lui et à lui. Voilà, ça c'est très très clair, ça résume un peu tout. Et puis aussi, quand on fait les collectes, enfin la première prière de la messe, hein, le prêtre, quand il fait la première prière de la messe, il termine en disant « Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. » Par Jésus-Christ, donc ton Fils, donc on s'adresse bien au Père, et dans l'Esprit-Saint. Hein, donc, c'est une action du Christ, et à cause de cela, ça donne une attitude particulière dans notre manière de célébrer. Le catéchisme de l'Église catholique dit que c'est donc la fonction sacerdotale du Christ, mais c'est le Christ tout entier. Christus totus. Alors, qu'est-ce que le Christ tout entier ? Le Christ tout entier, c'est d'abord Jésus incarné qui s'est offert, qui de toute éternité se tenait au Père, qui s'est incarné, qui s'est offert et s'est manifesté dans le mystère pascal, mais ensuite qui a été communiqué à son peuple, que saint Paul qualifie du peuple, que saint Paul appelle le corps du Christ. Hein, donc tous les baptisés, nous formons le corps du Christ. Alors quand on dit le corps entier, c'est le mystère même de l'Église qui est manifesté. Alors c'est le Christ qui de toute éternité est auprès du Père, le Verbe qui est auprès du Père. Hein, on est toujours, il y a toujours cette dimension-là, indispensable, première. Mais ensuite nous sommes tous associés par la grâce de notre baptême à offrir nous aussi en union avec le Christ, à mettre dans l'offrande du Christ, à mettre notre vie dans l'offrande du Christ. Donc on se glisse dedans et on est complètement associé, et la liturgie ne peut pas se vivre sans le peuple de Dieu, sans les baptisés qui sont le corps du Christ. Alors c'est le Christ tête, c'est le Christ tête, et dans la liturgie est manifesté le fait que c'est le Christ qui agit, l'action des prêtres. Les prêtres qui vont agir au nom du Christ et qui vont rappeler au peuple de Dieu, ben voilà, vous êtes le corps du Christ, mais attention, c'est vraiment le Christ qui agit. C'est pas vous qui vous faites de l'autosuggestion en disant on est les bons, on est Jésus, on est le corps de Jésus, et puis tout va bien aller. Non, il y a une dimension de. Une altérité, hein, c'est-à-dire que vraiment le Christ, c'est à la fois nous sommes le corps du Christ, et en même temps le Christ est un autre qui nous mène vers le Père et que nous suivons. Donc nous sommes tous associés à cette œuvre, hein, et la liturgie donc le manifeste très bien, et surtout depuis la réforme du Concile, il y a un accent très très fort qui a été mis sur la prise de conscience que nous sommes son corps et que nous sommes invités à vivre la liturgie, à être actif dans la liturgie, à agir dans la liturgie, comme le Christ, avec le Christ. Mais attention, pas sans le Christ. C'est-à-dire que c'est toujours, nous sommes bien d'accord que c'est toujours le Christ qui agit. Le mystère eucharistique, par exemple, est le mystère par excellence qui vous fait très bien comprendre cela. C'est-à-dire que si ce n'était pas le Christ qui agit, eh bien, il ne faut pas venir à la messe, parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Quand on dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », livré pour vous, un homme qui dit ça, même si on le disait tous ensemble, ça ne changera rien, tout ça, ça n'a pas de sens si on ne se dit pas ben, « vie, c'est le Christ qui agit hein. ». On dit que le prêtre agit à ce moment-là, in persona Christi. Alors, c'est la sanctification des hommes qui se fait par le Christ et par la liturgie, hein, qui rend présent la mort. Donc Dieu nous sanctifie et nous sauve, mais c'est aussi la glorification du Père. C'est-à-dire, le Christ rend une gloire parfaite au Père. Il aime le Père, il offre sa vie d'une façon parfaite, il rend gloire au Père d'une façon parfaite. Et nous, nous associons à cette gloire que le Fils donne au Père dans l'Esprit Saint. Mystère trinitaire, dans l'Esprit Saint, nous y associons. Et donc nous rendons gloire aussi, nous aussi, au Père avec le Christ. Donc il y a aussi cette dimension-là, Dieu nous donne sa grâce et nous rendons gloire. Il y a donc, dans la liturgie, il y a deux mouvements. Un mouvement descendant, Dieu qui donne sa grâce, le Christ qui agit, lui qui est invisible à nos yeux de chair, agit à travers des signes visibles, et puis nous qui rendons gloire au Père avec le Christ, le Christ qui s'offre, et nous rendons gloire au Père. Dans les liturgies, dans les prières païennes, il faut s'entendre, parce qu'aujourd'hui il faut faire attention à comment on parle, mais dans les prières des autres religions, habituellement, on prie Dieu, on fait monter des prières vers Dieu. Point. Nous, ce qui est très fort et ce qui influence la liturgie, c'est la grâce de Dieu qui descend. Et nous sommes pris dans la grâce de Dieu pour ensuite glorifier le Père avec le Christ, et nous le glorifions à travers la liturgie d'une façon parfaite. Il y a une perfection qui est donnée que le Christ lui-même, que seul le Christ peut donner lorsque nous prions. Donc voilà. Alors, dans la liturgie, il faut aussi rajouter que le ciel tout entier est acteur. Ce n'est pas le Christ tout seul au ciel qui rend gloire au Père, qui nous a sauvés par sa mort et sa résurrection, que nous vivons et auquel nous nous associons. Carrément, les anges du ciel sont aussi actifs. Célèbre la liturgie céleste. Il faut relire pour cela le livre de l'Apocalypse, qui est un modèle pour la liturgie. La liturgie, d'ailleurs, est construite essentiellement sur la parole de Dieu. Tous les symboles liturgiques, les explications sont dans la parole de Dieu. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Il suffit de connaître la parole et d'un seul coup, nous trouvons des lumières, nous avons une compréhension plus forte des symboles liturgiques. Hier, je prenais l'exemple de l'encensement, par exemple. L'encensement, parfois, on pose la question, parce que pendant longtemps, on l'utilisait pratiquement plus. L'encensement, il suffit de lire la Bible. Il y a la nuée du temple, qui envahit le temple avec la présence de Dieu. Et puis, il y a aussi l'encens qui monte dans les psaumes. Et puis, enfin, l'Apocalypse, où les anges encensent. Donc, voilà. Puis après, il faut méditer tout cela, qui soit le symbole et l'expliquer. En plus, ils expliquent, c'est la prière des saints qui monte vers Dieu. Voilà. C'est un exemple, mais on pourrait prendre bien d'autres exemples dans ce domaine. Il y a un double mouvement, c'est ce sur quoi je voulais insister, un mouvement de descente et de montée. Tous nous sommes associés, y compris les anges et les saints qui nous ont précédés, continuent à célébrer la liturgie céleste. La liturgie continue à participer à la liturgie. Dans le mouvement de montée de notre prière, qui est pris dans le dynamisme du Christ, il y a le culte parfait que Jésus rend à son Père, mais un point sur lequel je veux... Il y a deux dimensions dans notre prière liturgique. Il y a la dimension de l'adoration et la dimension de la supplication. Et qu'est-ce qui est première ? C'est l'adoration. C'est pas d'abord la supplication. Parfois, j'insiste là-dessus simplement parce que parfois, étant donné qu'en fait on prend du temps pour la supplication, on oublie qu'on est d'abord en adoration, on est d'abord à louer Dieu, à remercier Dieu, à l'adorer pour son amour immense, et puis en même temps on obéit au commandement de Dieu qui est présent dans l'Ancien Testament. Qui n'a jamais été supprimé, comme Jésus le dit. Il ne l'a pas supprimé, il a simplement accompli le commandement de l'Ancien Testament. Tu adoreras ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Et donc c'est cette attitude que nous nous faisons, c'est d'abord l'adoration, et nous le voyons très clairement au moment du début de la prière eucharistique. Hein, on pourrait prendre d'autres exemples, mais c'est les exemples les plus faciles. Au début de la prière eucharistique, le Christ, plutôt le prêtre, dit « Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit ». Alors, les pères de l'Église ont commenté longuement hein, ces trois paroles-là, ce dialogue. « Le Seigneur est avec vous et avec votre esprit ». Alors, « Le Seigneur est avec vous », ce n'est pas de dire « J'espère que le Seigneur est avec vous ». C'est « Le Seigneur est avec vous ». Là où deux ou trois se prieront en mon nom, je serai là au milieu d'eux. « Le Seigneur est avec vous ». Affirmation du prêtre qui le dit. Voilà. Et puis, ensuite, « Et avec votre esprit ». D'ailleurs, ce dialogue, on le retrouve à plein d'endroits dans la messe. Tous les moments un peu importants, tout de suite, on va refaire cette affirmation. Attention, le Seigneur soit avec vous, non pas dans le sens attention, dans le sens peur, mais prenons conscience que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec vous et avec votre esprit, parce que le prêtre, il a beau être ce qu'il est, il a besoin de la prière des fidèles, il a besoin d'être réconforté et encouragé par les fidèles. Et donc, quand on dit et avec votre esprit, c'est vraiment pour dire que le Seigneur soit avec toi aussi dans ce que tu vas faire maintenant. Où le Seigneur est avec toi, plutôt, plus fortement. Le Seigneur est avec toi pour ce que tu vas faire. Il va rassurer le prêtre et l'encourager dans son action. Sinon, ça serait un peu... un peu la présomption de faire ce que va faire le prêtre. Hein? Donc, le Seigneur, c'est avec vous et votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Élevons notre cœur. On voit tout de suite que la liturgie nous fait... rentrer dans une dimension qui n'est pas la dimension horizontale habituelle de notre vie, mais nous fait entrer dans la liturgie. Je disais que ça a actualisé le mystère pascal, c'est dans la liturgie céleste. Dans le petit feuillet que vous avez, le paragraphe qui suit la définition de la liturgie, le paragraphe 8, vous dit que dans la liturgie terrestre, nous participons à un avant-goût de la liturgie céleste. Donc, il y a une dimension, nous goûtons un avant-goût de la liturgie céleste. Et normalement, il est normal que quand on vit la liturgie, eh bien, on vive un moment particulier de notre semaine qui fait que il y a un goût de pas habituel. Quand on sort, on dit tiens, j'ai vécu quelque chose, mais c'est vrai que dans la semaine, je ne vis jamais ça. C'est-à-dire qu'on goûte un avant-goût de la liturgie céleste. Donc, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Alors, c'est la question de l'orientation de la prière qui, maintenant, est beaucoup moins évidente qu'autrefois. Hein, autrefois, on voyait bien que le prêtre n'était pas le centre de la situation. Il était peut-être dans la vie quotidienne, mais il n'était pas au moment de la liturgie, puisqu'on ne le voyait pas de face. Hein, maintenant, le fait qu'on voit beaucoup le prêtre face à face... On peut se tromper parce qu'on peut croire que quand on tourne notre cœur vers le Seigneur ou quand on fait une action liturgique, on est en dialogue avec le prêtre. On n'est pas en dialogue avec le prêtre, on est en dialogue avec le Père. Et le prêtre, lui, va agir, va faire les actions du Christ. Il va agir au nom du Christ et parfois au nom de l'Église. Hein, mais ça, c'est tout un. Hein, le Christ et l'Église, c'est tout un. Parfois, au nom de l'Église, vous remarquerez, il y a un certain nombre de prières qui sont des prières même. C'est l'Église qui présente ses prières à Dieu, c'est la prière de l'Église qui est reprise. Voilà, le début de la messe, la collecte au début de la messe, après la prière universelle, conclusion après la prière universelle, il y a toute cette démarche aussi, où on présente, c'est la prière du Père, c'est la prière de l'Église qui est présentée par le prêtre. Il agit dans ce cas-là in persona ecclesia. Voilà, donc on est pris dans un mouvement. Nous élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, rendons grâce à notre Dieu, cela est juste et bon. Voilà. C'est l'aboutissement. Rendons grâce et on rentre dans l'action de grâce, dans l'adoration, dans l'action de grâce. Cela est juste et bon. Quand on le dit, il faut le croire. Si on dit le truc sans on n'y croit pas, que cela est vraiment juste et bon, alors il faut le croire, non seulement le dire, mais le croire. Voilà. On continuera la prochaine fois.